Cube Radio.
As-tu vu comment je suis différent des autres fois?
Comment ça?
Parce que là, je conduis, puis habituellement, je sens qu'en tabarnouche quand je conduis, parce que la plupart des gens sur la route sont des imbéciles. Et là, étant donné que j'ai un micro devant ma face, je fais
on
attention.
On va aller là, si tu tournes
oui,
à gauche
c'est
ici, on va aller là, puis il y a un couche-tard, on va pouvoir acheter du Coke pour Sylvain Marcel.
Du Coke zéro.
Le gars, il est passé de la Coke au Coke.
Oh! Oh!
Exceptionnellement, aujourd'hui, j'ai remplacé Vanessa Destinée à l'émission Les Têtes Enflées. Donc, on doit absolument rentrer rapidement à la maison parce que les invités s'en viennent.
C'est une journée de fou, là.
Une journée de fou.
Moi, j'ai pas eu deux minutes, là.
T'as même pas mangé ce midi. Ça n'a aucun sens.
J'ai faim au bout, je suis en train de m'auto-gérer.
Il m'a pas le temps.
J'avais même pas le temps d'aller pisser, j'avais pas le temps de rien. Donc, on court.
Trop d'informations.
On s'en va à la maison.
Pour recevoir José Ito Michaud et Sylvain Marcel. Et c'est pas la première fois que ça arrive. On décide de jumeler deux personnes parce qu'on se dit, bon, ça va aller bien ensemble. Puis là, on commence à lire sur l'un et sur l'autre. Puis là, on se dit, hein, ils ont ça en commun, ils ont ça en commun, ils ont ça en commun. Et là, je lisais sur Sylvain Marcel, j'ai lu son livre, Aidez-moi. Et il raconte son enfance. Il y a une enfance difficile, exposée à beaucoup de violence. Et José Ito a une enfance très difficile. C'est un enfant abandonné. Il a été dans des familles d'accueil.
Oui,
et après, il a été adopté.
Il a eu la même enfance que Boule Noire. George Thurston s'est promené de famille d'accueil en famille d'accueil en famille d'accueil. Mais, la même chose.
Mais la différence, c'est qu'après quelques familles d'accueil, il a finalement été adopté par une famille, puis une maman qui a été super importante pour lui, puis tout ça. Mais les deux ont eu une enfance très difficile. Puis à un moment donné, je pense que c'est Sylvain Marcel dans son livre, il dit à quel point l'adulte qu'on est et fait juste essayer constamment de consoler l'enfant qui a été. Mais je trouve que c'est très beau de relancer José Lito là-dessus.
Ça explique beaucoup de choses, l'enfance que tu as eue. L'enfance que tu as eue explique énormément l'adulte que tu deviens. Peux-tu me laisser passer? Non, évidemment.
Essaye de ne pas les écraser.
Parce que ce sont des piétons. C'est impossible que les piétons arrêtent pour laisser passer une auto. Ça se peut pas. Ça serait un crime débile. Bon.
Ah.
Comment t'appelles ça les gens qui détestent l'humanité? Là?
Des misanthropes.
Si tu veux être misanthrope,
okay,
tu conduis.
Là, arrête parce que là, j'ai enlevé ma ceinture.
Oui,
arrête.
Tu conduis.
Arrête quand j'enlève ma ceinture.
OK, Sophie, moi, je vais dire, va chercher le coke, je vais raconter quelque chose.
Oui, je sais ce que tu vas raconter.
Sophie, dès qu'elle est dans un char, il faut qu'elle mette sa ceinture. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son enfance. Tu peux pas, mettons, tu rentres dans le char, puis je continue, tu sais, tu es dans un stationnement. Il faut qu'elle... Non, attends, je n'ai pas mis ma ceinture. Il faut qu'elle ait tout le temps sa ceinture, même si tu roules à 2 km/h dans un stationnement. Faut qu'elle mette sa ceinture. Bon, la voilà. Regarde bien ça, je vais partir un petit peu sans la ceinture. Tu veux bien ça? Tu veux bien ça?
Il y a un monsieur qui est là, il était prêt à partir avec moi. Là. Il dit, toi, je t'aime bien. Alors, je lui dis,
Kidnappe, m'a dit, Marie est déjà, ben, je vais on va prendre la porte de côté.
Il dit, on va prendre la porte d'un côté, c'est trop drôle. Merci, monsieur.
C'est beau, votre chien.
J'aime tous les deux, puis regarde.
Merci.
Assumez-vous, puis assume-toi encore.
C'est super gentil.
Super gentil. Ouais,
c'est
le fun. Merci, monsieur.
C'est beau, votre chien.
Bye.
Ouais. Ben, merci.
Ben, Sophie, ça dit, ça marchait bien.
Oui, il me dit ça, il dit, si t'étais pas marié, toi. C'est trop drôle. Ah, je te dis, les rencontres qu'on fait au couche-tard, hein?
Hey, t'as pas dit, j'ai pas ma ceinture. Je viens de dire, regardez bien qu'est-ce qu'elle va dire Sophie, puis tu le dis pas.
Oh, je sais pas, j'étais tellement occupé à penser à mon Coke Zero.
T'as pas dit, viens, j'ai pas ma ceinture.
Ben, tu le fais tellement bien à ma place, j'ai même pas besoin de le dire.
C'est rare un comédien qui devient célèbre par une publicité. Non?
Et, ben écoute, c'est complètement capoté. Dans son livre, il dit « Les publicités Pharmaprix dans ma vie, ça a été comme une bombe nucléaire. » Tu sais, lui, il peut vraiment dire « avant, après ». Puis c'est assez particulier parce que pendant 30 ans, il a été accro à l'alcool et à la drogue, OK? Sauf qu'avant, il travaillait comme préposé aux bénéficiaires.
Ah ouais?
Fait qu'il avait pas beaucoup d'argent pour acheter de la dope. Puis là, quand il a eu le contrat de Pharmaprix, il était super content. Parce qu'il y avait plein d'argent pour s'acheter de la dope. tout l'argent qu'il a fait avec Pharmaprix, il l'a tout sniffé. Il l'a sniffé, les contrats Pharmaprix. Puis c'est assez particulier quand même, parce que tu fais des pumes pour la pharmacie, tu t'envoies de là. Et alors, c'était comme un cadeau empoisonné, parce qu'il était super content, sa carrière allait super bien. Puis en même temps, il y avait juste plus d'argent pour s'abîmer encore plus la santé. Écoute, c'est une histoire de rédemption, une histoire de...
C'est triste.
De résilience.
C'est triste, les gens qui sont addicts de même puis dépendants, puis tout ça, c'est... Regarde ça, c'est bloqué partout.
Ah oui, chiant, là.
C'est bloqué partout à Montréal. C'est une ville de merde, c'est une ville de fous. C'est bloqué partout. Il y a des travaux... All over the damn place.
La ville est repeinte en orange. Bon, ben, on arrive à la maison. Moi, je trouve que c'est pas trop mal. T'arrêtes pas de chialer que c'est long, mais c'est finalement...
Hey, du coke avec des sushis, ça va être mauvais en vierge.
Ben, du coke avec n'importe quoi, moi, je trouve que c'est mauvais en vierge, comme... Personnellement, moi, je m'en sers absolument juste pour récurer les poignées de porte, non? Je mets pas ça dans mon corps, du coup.
Bon!
Il était temps. Ah, ça fait du bien quand même, après une journée de travail, d'arriver à la maison et de prendre un bon verre de coke en sucre.
Non, ça. Non, mais je m'excuse, je sais. Il est fou. Je vais prendre un verre de vin. J'ai une journée de fou.
Alors, bon, journée comme on a, on court partout, à droite, à gauche. OK, là, ici, les sushis vegan, je vais les mettre à part parce que c'est pour José Lito. OK? Juste les mettre ici pour l'instant. Parce que José Lito, on ne pouvait pas manger des pâtes parce qu'il est allergique au gluten. Et aux produits laitiers.
Ça,
tu touches pas.
OK, ça, on touche pas.
Ben tiens, Richard, veux-tu aller porter déjà?
Attends.
Oh. C'est quoi, breaking news? Il y a breaking news, Trudeau, je sais pas quoi.
C'est quoi?
Tu sais pas?
Breaking news?
Ouais, des fois, ça veut rien dire, non? Non.
Pourquoi?
Il a fait un blackface. C'est Time Magazine qui sort ça. Il était à un party des mille et nuits. Il s'est fait... Il a porté un blackface.
Si on n'avait pas des QVS, je réécrirais ma chronique de demain.
Ouais.
Parce que j'ai une chronique
pour
demain.
Parler de ça.
Puis je dirais, scraper ma chronique de demain. Puis prenez une nouvelle chronique que je vais vous envoyer. Pour parler de ça, mais là, je peux pas.
Ben, tu peux toujours leur dire à 9h15, je m'assois puis je vous écris une nouvelle chronique. Ça te donne 3/4 d'heure pour l'écrire. Parce que José Lito, il part à 9h15. Ouais. Mais en même temps, as-tu vraiment envie de ça, là? Regarde, wow!
Ben, c'est la plus grosse histoire de la campagne électorale.
Puis ça va te prendre 3/4 d'heure l'écrire. Fait, appelle Dany Doucet. Mais non, mais je vais me mettre à côté de toi, on va l'écrire ensemble. De toute façon, tout le monde sait que c'est moi qui écris tes chroniques. C'est très drôle! Hey! Les invités sont arrivés!
Ensemble?
Ensemble? Hey! Salut! Oh. Vous avez trouvé?
Salut!
Allô!
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 Malgré les cônes oranges, bonjour!
Hey, quel cône orange!
C'est le bordel en tabarnouche!
T'es un animateur, là?
Oui, ouais, okay,
on a déjà commencé l'entrevue en bas, là.
Oui,
non, moi, ça, là.
Il t'a posé des questions, c'est vrai, quand
vous avez dit. Là, j'ai trois animateurs avec moi.
C'est son nouveau show, là, on prend toujours un ascenseur pour quelque part.
Oui!
C'est plus court!
Ouais, c'est
plus
court!
Mais tu sais quoi? C'est punché! La question qui tue dès le départ!
Qu'est-ce que tu lui as posé comme question à Sylvain?
Ben, j'ai parlé du film sur Céline, on va sûrement parler ce soir.
Oui, ben, qu'est-ce que t'en
penses? Puis là, j'avais l'impression que l'autre jour, il ne pouvait rien dire, fait qu'il disait comme ça, je disais, est-ce que tu vas pas en parler ce soir, les droits de
l'homme? Je sais, si tu es un peu, puis je m'échappe.
Ah, voilà.
C'est ça qui est pire, parce que j'ai une grand gueule.
Tout le monde en parle, où tu disais.
Oui.
Que tu disais que tu ne pouvais pas parler, c'était ça. Super drôle.
Sylvain,
mais là, maintenant, le tournage a eu lieu.
Le tournage que j'ai pas fait?
Oui, que t'as pas fait sur un personnage qu'on connaît pas personne.
C'est ça. Non,
Sylvain, tu donnes deux verres de coke zéro, puis oui. Il pend, il dit tout. Il dit tout.
Mais on a parlé de ça et de l'alcool, parce que moi, j'ai lu son livre.
Ben oui, ben
puis,
moi aussi.
Naturellement, puis je me suis dit ce soir, je vais te l'annoncer à Grand Primeur, je vais être solidaire à toi, je ne bois pas.
Ah,
j'ai envie de ne pas boire. Oui, excuse, pardon.
Mais sinon, ça ne me dérange pas. Moi, le 28 septembre, ça fait 10 ans que je me rappelle même plus que ça goûte.
OK, mais moi, j'avais goûté
ça. Ça fait 10 ans que je bois pas.
Ça, c'est parce que tu te sens coupable. T'es comme moi. Moi, je me sens coupable quand il y a quelqu'un qui ne boit pas face à moi. Puis je me sens faible en disant, lui, il a cette force-là. Il n'a pas pris d'alcool.
Oh, non. C'est pas par rapport à la force ou la faiblesse.
Moi, je me sens
faible. C'est la solidarité. C'est plus par solidarité. Ouais. Vraiment, dans ce cas-ci, je me suis dit, hey, j'ai goût d'être solidaire à Sylvain ce soir. Puis de
mais ça sera pas mon cas ce soir, j'ai une journée de cul.
Moi non plus.
Ça n'a pas été une bonne journée?
Non, c'est correct, mais je courais beaucoup, je suis bien stressé.
Et travaille très fort.
Je ne sais pas que vous allez me ramasser en dessous de la table à la fin de la soirée, là, mais je vais prendre quand même...
Mais juste la question, Sylvain, est-ce que toi, t'as pas une, c'est pas répulsif, là, ça te dégueule pas de voir quelqu'un boire du vin?
Moi, c'était pas ma drogue de choix. J'appelle ça l'alcool.
Ouais.
Fait que c'était beaucoup ça, moi. Fait que ça, moi, tout ce qui est en bas de ma drogue de choix ne m'intéresse pas tellement.
Mais si, par exemple, quelqu'un ce soir, aucun de nous trois, mais mettons que dans un party, quelqu'un fait une ligne de coke devant toi.
Ben là, non. En général, ça se fait dans les toilettes.
Okay.
Ça se fait
moi,
pas.
C'est plus délicat que ça, hein, moi.
Je vais rarement me retrouver dans un party
dans
à ces heures-là, c'est ça? À ces heures-là où les gens, à ces heures-là, font ça sur la table. Je ne suis pas là. Moi, je suis déjà parti parce que déjà, moi, les rap parties, là, dans les tournages, 11h30, je commence à moins les comprendre parce qu'ils ont bu. Fait qu'il fait 5-6 fois qu'ils me disent que je suis vraiment bon. Là.
Fait que, ils ont fini par le savoir.
C'est ça.
Ça fait 5 fois qu'ils disent.
C'est ça qu'on est en.
Ça doit être.
Fait que, bon, c'est ça, je reste pas longtemps. Là.
Mais alors qu'avant, t'étais le gars qui partait sur le party une fois que le party était terminé. Là, t'avais comme un deuxième puis un troisième party après
quand
le party.
Quand il avait fini, moi je commençais.
C'est ça.
C'est ça.
Ouais. T'as changé ta vie du tout au tout quand même. Mais dans ton livre, je sais pas toi, José Lito, mais quand tu racontes que t'écris une lettre à ta drogue préférée, la Dame Blanche, puis que tu pleures comme un veau, écoute, moi, c'est impossible de lire ça puis de pas brailler avec toi, là. C'était capoté, cette anecdote-là.
Ouais, j'écris « Je t'aime plus que ma blonde ». Puis pourtant, c'est quelque chose d'humain, là. C'est pas...
Non.
Mais moi, je pensais tellement que ça m'aidait à être une meilleure personne ou à être un meilleur acteur ou que j'étais convaincu que j'avais besoin de ça dans la vie.
Capoté.
Pourtant, je suis naissant. Je suis pas né...
Est-ce que toi, le suicide te passe par la tête?
Tiens, José Lito, puisque tu bois
souvent.
Pas du coke.
Souvent, parce qu'à un moment donné, tu te demandes...
Il n'y a pas de
tu essayes tout. Hein? Moi, j'essayais, j'en parlais avec José Lito, j'essayais les grands scotch. Je finissais à terre. Un vin à 7$ ou un vin à 700$, ça fait la même discipline. Il n'y a pas de différence. C'est une bonne bouteille de vin, pour moi, c'est une bouteille de vin vide.
Ouais.
Fait que c'était tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Fait que j'essayais ça. Puis, à un moment donné, l'Organisation mondiale de la santé qui a entériné que c'était une maladie. T'sais, fait que ça, je savais pas,
maladie.
Moi.
C'est
oui, c'en est une.
Oui, c'est une maladie.
Il n'y a rien à faire.
Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas suicidé?
C'est que souvent, je revenais à des heures de fou. Il me restait une demi-heure avant d'aller...
T'avais pas le temps de te suicider.
Avant d'aller sur la chaise de maquillage pour être... Tu dis, je passerai pas à travers, je sais pas mon texte. J'ai beau essayer de l'apprendre, ça rentre pas, il y a rien à faire. Ma mémoire, elle fonctionne plus. Fait que tu passes sur le pont, tu dis, ben OK, mettons que je donne un bon coup de roue, là, tu sais. Ça va, il y a de la glace en bas, ça va se régler rapidement, tu sais, parce que tu sais plus quoi faire, là, tu sais plus.
Mais tu l'as jamais fait?
Non, j'ai jamais essayé. Non.
Donc, il y a quelque chose qui t'accrochait.
Ben,
j'ai jamais essayé, mais je dirais que consommer à outrance, c'est comme une forme de suicide.
Excuse-moi,
c'est
parce
un
parce que
non, mais ça, c'est important.
J'étais allé six fois à l'hôpital.
C'est un lent suicide.
C'est un lent suicide.
Oui, j'étais allé six fois à l'hôpital quand même.
Nicolas Cage dans Living Las Vegas. Je sais pas si t'as vu le film.
Lui, sa drogue de choix, c'est l'alcool.
C'est l'alcool, mais il buvait pour se tuer, littéralement.
Est-ce que tu te souviens de tout?
Ah non, c'est pas clair. Il y a bien des affaires qui sont pas claires. Il y a bien du monde qui me disent des choses.
Tu t'en souviens pas?
Pas vraiment. Non, non, non. Il y a des gens qui me disent « t'en souviens pas, on était dans un bar, aucune idée. »
Sophie, elle a proposé, je ne dis pas à qui, mais à un artiste connu de faire sa biographie, OK? Parce qu'elle a fait la biographie de Jean-Pierre Ferland. Mm-hmm. Elle a demandé à un artiste connu « j'aimerais ça faire ta biographie, on va s'asseoir, tu vas me raconter ta vie. » Puis il a dit « ben, c'est pas, non, je peux pas parce qu'il y a des grands bouts, je me souviens plus. »
Ouais. Ouais.
Et le nom de ça...
Le cas continue!
Non, ça serait très bon.
On peut s'asseoir.
Ben oui, on va. Ben oui, certainement. OK, alors donc.
Là, ton boss, il t'en demande une autre pour demain matin, finalement?
Je sais pas.
Non, c'est lui qui a proposé au boss. Okay. Parce que là, il trouvait qu'il n'avait pas assez travaillé aujourd'hui. Il est debout depuis 6 ans ce matin.
Ce qui est bien d'avoir un animateur comme invité, c'est qu'il va faire la job, puis nous autres, on l'a...
Ben oui.
Non, 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 moi, jamais.
On va boire, puis on va manger.
Au contraire, au contraire, moi, je trouve ça extraordinaire d'être interviewé des fois.
C'est vrai?
Oui, parce que souvent, quand... vous savez, vous êtes connus, quand on est connus, on est tous connus. Mais quand on arrive à table, tu vois, une obligation de...
D'animer.
Oui, d'animer, puis je suis un peu fatigué de ça,
puis
moi,
c'est
dans... Fait que c'est pas, j'ai toujours le même monde à ma vie, puis ça me prend beaucoup de m'extirper de la maison, moi.
Ah, vraiment. Ouais.
J'aime pas beaucoup ça. Les gens pensent que je suis très sociable, mais je suis à mes heures.
Casanier.
Je suis extrêmement casanier, puis j'ai besoin du même monde, des mêmes références pour tout ça, parce que je trouve que c'est un métier où on est toujours observé.
Bien, tout à fait. Ouais. Et ça fait du bien, des fois, d'être dans de l'intimité au lieu d'être dans l'extimité.
Voilà, mais voilà. Voilà. Oh!
Ouais. Je vais dire, il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire, ouais, ben là, les gens trouvent ça drôle, là, ben, Marc Labrèche qui fait une parodie de José Lito avec Céline, mais tu sais, c'est pas fin pour José Lito. Puis là, j'ai répondu aux gens par Internet, j'ai dit, ben écoutez, je le rencontre cette semaine, José Lito, je vais lui poser la question.
Ça m'atteint plus du tout depuis longtemps. Ça m'atteint la première année parce que, faut dire que moi, j'avais été longtemps dans l'ombre. Hein?
Oui.
Et moi, j'aime beaucoup l'ombre. J'aime beaucoup l'ombre.
Mais donc, avec la lumière vient un certain nombre de prix à payer.
Oui, puis en 2003, je me souviens, donc je fais donc Star Academy, après ça, j'arrive à la télé, à tous les soirs, puis tout ça, et je me souviens, j'étais au talk show de fin de soirée, puis je me dis, puis le midi, j'étais à la radio Rock-Détente, je travaillais à Québec, c'était un peu trop pour moi, là. Je me souviens comment j'étais, j'avais des affiches partout, je me souviens comment j'étais. Écoute, l'année la plus malheureuse de ma vie, c'est l'année où j'étais le plus en gloire. C'est rien particulier.
C'est capoté,
l'année la plus malheureuse de ma vie. Et je m'étais vraiment malheureuse, pire que tout ce que j'ai vécu récemment. C'est vraiment une année malheureuse. Je portais comme le poids de la célébrité. Je sais pas ce qui m'arrivait là. Et les parodies, je me souviens du patron de TVA à l'époque, qui était Philippe Lapointe.
Ouais.
Qui m'avait dit, c'est génial, elle est une star. Je lui ai dit, oh là,
et c'est ça, c'est une star. Compris, là. Ouais.
Moi, non, il avait compris parce qu'il était, il pensait me flatter. Parce que souvent, les gens, ils
s'y arrachent la carte. Il n'avait pas compris que toi, tu trouvais ça difficile.
Ah, moi, c'était épouvantable la première année. Après ça, quand j'ai vu que c'était ça, j'ai fait, OK, parfait. Et là, je me suis retiré volontairement. J'allais faire passage obligé d'autres affaires. Et là, ça m'atteint plus du tout. Je regarde ça. Et sincèrement, je trouve ça drôle.
Je trouve ça dur
pour Céline. Là, je trouve ça plus dur pour Céline que pour moi.
Oui, c'était très méchant pour Céline.
Et toi, les pubs de Pharmaprix, c'était parodié, mais c'est pas vraiment toi qui parodiais, que plus la pub qui parodiait, ou c'est toi?
C'est parce que le problème, c'est que quand les gens vous arrêtent dans la rue, ils vous disent « on aime ce que vous faites », c'est ça. Moi, ils crient après moi. C'est comme ça que je vivais ça. Moi, ça a été assez violent, oui. Parce que souvent...
Pourquoi ils crient après toi?
Ils crient « aha ». Okay. Il ne me parle pas, moi. Moi, il crie. Oui. Ouais.
Puis non, souvent. Il t'agressait.
Et le pire, c'est que parfois, c'est que je suis déjà passé, je suis de dos. Et ça m'insultait, là. Il me le faisait quand j'étais de dos.
Qu'est-ce qui t'est mortel là-dedans?
Ben, fais-moi-le dans la face. Fais-moi-le. Aie le courage de me le faire. Quoi, tu veux que je me retourne? Non, je me retournerai pas. Puis en plus, j'étais en consommation à côté. Fait que c'était dur à vivre.
Cette immense-là, ben oui.
Il y a un monsieur. Oui. Là,
parce que sobre, ça t'aurait peut-être moins dérangé.
Ben, je finis une partie de golf. Je mets mon sac dans
la voiturette?
Dans ma voiture. Il y a un monsieur qui arrive en arrière de moi, je le vois pas. Il mesure 6 pieds 3, 6 pieds 4 à peu près, monsieur. Cinquantaine d'années. Et je me retourne, il est à 2 pieds de moi, puis il me fait un « ah » monumental. Moi, je l'ai pris par le collet, puis je suis prêt à frapper. Je pense qu'il veut m'agresser.
Oh!
C'est terrible à la fois.
Je suis sûr qu'il veut me... Lui, il veut juste me dire « je vous aime », tu sais, c'est ça qu'il veut me dire.
Mais ils pensent tous, ces gens-là, qui sont les premiers à penser à ça.
Ouais, c'est ça.
Moi, je suis chum avec Michel Barrette, puis le nombre de fois « ouais, il attend une dinde, puis ils sont sûrs que... C'est les premiers à dire, le faire d'une dinde, Abraham Chet Barrette, ils sont 20 000 à faire
Moi,
j'en ai une bonne.
La joie du train, là, moi, là.
Ah, ben là.
Vous prenez un train, bout en train, fond de train. J'ai tout entendu les expressions avec le train.
Fond de train.
Complètement.
Alors, Sylvain, c'est « aha », et puis Michel Barrette, c'est « hi-ha ».
Ah, ben, oui, exactement, c'est vrai. Heureusement, ce qui est arrivé, c'est que la même année, en 2002, moi, j'ai lâché l'hôpital. J'étais préposé aux bénéficiaires depuis 10 ans.
J'adore.
La même job que Daniel Bélanger.
Hein?
Daniel Bélanger a eu ce job-là c'est aussi, préposé.
Ouais. Puis,
Nicolas Duvernoy, le fondateur de Romeo's Gin.
Ouais. Ouais. J'ai vraiment pris une chance parce que j'ai lâché l'hôpital. J'avais juste un théâtre d'été. C'est tout ce que j'avais. J'avais 3 enfants, une grosse pension à payer.
Ouais.
Puis, j'ai pris un gros risque.
Ouais.
Ben, c'est qu'à un moment donné, un ultimatum, je manquais beaucoup à cause des répétitions pour le théâtre. Puis elle m'a dit, écoute, moi, j'ai besoin d'un préposé. Alors, t'es préposé ou t'es acteur? Puis moi, ça... Mm. Ben, je suis acteur. Elle dit, OK, je t'arrange une sortie. Puis là, Et là, je me suis retrouvé comme...
T'as
eu le choix? Oui, le même été, j'ai eu Family Prix, 450 Chemin du Golf et Homme en quarantaine.
Tout allait très bien.
En même temps. Ce qui fait que, bang, tout est arrivé en même temps dans l'été, dans l'année 2002-2003. Ce qui fait que les réalisateurs ont fait, OK... Ça fait n'importe quoi.
Il est bing, ce gars-là. Ouais, c'est ça.
Il a plein d'argent pour acheter ta côte.
Mais en plus.
Il y en a plus. Moi, j'ai jamais dit ça, moi.
Est-ce que tu as remplacé une béquille par un autre? Parce que souvent, les gens, ils arrêtent de jouer. Mettons, ils ont des problèmes de jeu, ils arrêtent de jouer, ils se mettent à boire. Ou ils arrêtent de boire et ils se mettent à.
On a un ami qui a arrêté.
À trop manger, ou c'est la religion, ou c'est comme.
On a un ami qui a arrêté la coke, mais est tombé dans la religion, tu sais.
Ben c'est ça, un transfert. Mais la religion, c'est moins nocif, je dirais, que la cocaïne, à moins que ce soit une religion qui est dangereuse pour elle. Là,
non, si c'est une spiritualité, mettons.
Ouais.
Et toi, ton PS, bien. Là, tu parles beaucoup dans ton livre, la personnalité supérieure, c'est ça?
Non, c'est le voyons, tu m'as mêlé.
Mais là,
c'est pas une personnalité, c'est la puissance supérieure.
La puissance supérieure.
Ouais, ouais, ouais.
Ça revient beaucoup dans ton livre.
Oui, mais ça n'a pas rapport avec la religion.
C'est pas la religion.
Pas du tout. Ma PS, c'est ça. Ma PS, moi, c'est super simple. C'est très, très simple. Moi, on en a tous une espèce de petite voix dans la poitrine qu'on a.
OK.
Il ne faut pas la mélanger.
Dans la poitrine.
Oui, juste là.
C'est intéressant.
Au niveau du cœur, c'est cliché, mais c'est là qu'elle est.
Non, c'est intéressant.
Puis, elle ne parle jamais fort.
Ah oui, mais elle susurre longtemps.
Puis, elle se trompe jamais.
Ah oui.
Puis, elle susurre très, tu sais, pas fort.
Oui,
puis, elle n'arrête pas. Il faut faire attention parce qu'il y a l'angoisse qui est là aussi. Il y a la colère, il y a le ressentiment.
Qui s'appelle le plexus, hein? C'est le plexus.
Dans ce coin-là.
Mais il faut que tu départages tout ça parce que des fois, c'est ta peur qui parle. Des fois, c'est bon. C'est la petite voix intérieure quand même. Là.
C'est ça. Moi, je l'appelle ma PS. Je l'appelle un mot de 4 lettres là, qui est plus difficile à dire. Donc, mon Dieu, là. Fait que je l'appelle
mais
comme
t'as un genre de spiritualité.
Oui. Oui, qui n'a rien à voir avec les religions.
Là, mais que tu crois à une force supérieure, puis ça te donne une force en dedans de toi.
Je pense sincèrement que c'est ça qui m'a sauvé la vie.
Que tu dis, il y a une force supérieure.
Oui, oui, oui.
Mais excuse-moi de la nuance, c'est importante, puis peut-être ça a l'air du taponnage. Une force supérieure ou une force intérieure? C'est pas la même chose.
C'est quelque chose qui n'est pas humain, en fait. Il ne faut pas que ça soit humain. Il faut que ce soit... Ça peut être une personne décédée, ça peut être... Ça peut être mon père qui est décédé il y a plein d'années. Ça doit être quelque chose, une puissance d'amour.
Sans jugement, d'amour. Tu veux dire.
Moi, des fois, il y a des membres qui me disent « Ah, Dieu m'a envoyé une épreuve, là, il y a quelqu'un qui fume un joint devant moi, puis c'est j'ai eu... » Non, il fait pas ça.
Il n'y a pas le temps!
Il fait pas ça. On appelle ça le hasard, ça. C'est un autre, c'est une autre affaire. Tu es par hasard trouvé là, puis si... S'il t'envoyait quelque chose, c'est peut-être pour aller l'aider, lui, tu sais, qui est en train de fumer son joint puis il est prêt d'arrêter, tu sais. Fait que...
José Lito, toi, le...
Moi, j'en ai mis très près. Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage très, très collé sur moi, là, récemment, qui a des gros problèmes. Exactement, pas la même ampleur que Sylvain, mais certainement une grande dépendance. Puis quand cette personne m'a parlé de cette souffrance, c'est exactement ce que tu disais tantôt, Sylvain, c'est un grand trou vide, puis tu veux juste le remplir. Il me disait que c'était impossible de le remplir totalement. Donc, ma seule façon de le faire, c'est d'engourdir le mal. Et c'est drôle parce que, puis il me disait, cette personne-là me disait, je suis à la recherche de sensations. Tantôt, quand tu parlais du fameux buzz, c'est une sensation. Puis je me dis, on est dans une société aujourd'hui, puis on n'a pas besoin d'être toxicomane pour ça. On a juste besoin d'être un peu passionné, puis moi, je suis quelqu'un d'extrêmement passionné pour être à la recherche du buzz. T'sais, moi, j'ai... Puis de dire que c'est quoi le buzz ce soir. Puis l'autre jour, je me suis rendu à une affaire particulière. J'étais rempli de certains préjugés. Je suis allé au Beach Club.
J'ai dit, il faut que j'aille
au Pointe-Calumet.
À Pointe-Calumet.
Quand j'allais là?
Je suis allé là il y a deux semaines. Il y avait un super DJ qui était là. Puis ma fille, elle ne peut pas venir parce qu'elle a 17 ans. Puis moi, je suis allé parce que j'ai été invité par Olivier Primo. Puis je suis allé voir ça. Puis j'avais quelques préjugés sur l'affaire au grand complet.
J'adore ça.
Jusqu'à temps que je découvre ce que j'ai vu là. Soudainement, je me suis dit, c'est comme les messes du dimanche.
C'est comme une transe.
Il y a un célébrant. Et pendant une heure et demie, deux heures, parce qu'on parle de sensations fortes et de buzz.
Ouais.
Les gens, pendant deux heures, oublient tout ce qu'ils ont vécu et ont du plaisir. Mmh. Et là, moi, je suis devenu admiratif et je me suis mis à regarder ça avec beaucoup de bienveillance.
C'est les messes d'aujourd'hui.
C'est les messes d'aujourd'hui. Et je voyais des gens de toute nationalité, de tout acabit, des mâles, alpha, des émotions, plein de monde, puis qui dansaient sur le rythme, puis même moi, je m'étonnais à le faire. Et je me suis dit, est-ce que nous sommes à la recherche d'un buzz, peu importe sa durée, parce que la vie est insoutenable parfois.
Ben, my God!
L'insoutenable légèreté de l'être.
D'accord avec toi.
On est d'accord?
Je trouve que l'être humain a besoin de transcendance.
Bon, voilà.
Être tout le temps sur le plancher des vaches, c'est intenable.
Mais non, mais t'as un peu,
c'est intenable. Donc, c'est ça aliénant. Va être quoi? Ça va être « What's your poison? » C'est ce que je dis.
Exactement,
what's
ça,
what's your favorite poison?
C'est quoi ta béquille? Moi, des gens sans béquille, j'en ai jamais rencontré dans ma vie. Ça existe peut-être, là.
Non.
Mais soit qu'ils font trop de sport, soit qu'ils travaillent trop.
Mais c'est quoi tes béquilles à toi,
Richard?
Soit qu'ils
aiment trop.
Le travail.
Soit le travail, moi aussi.
Le travail. Des fois, quand je suis stressé, l'alcool, je l'avoue.
Des fois, l'alcool et le travail.
Oui. Tu sais, c'est comme, oui, tu sais, on a tous nos affaires. Puis, tu prends un jeune enfant tout petit, là. Il tourne sur place, il pivote pour être étourdi, puis ça lui donne un sentiment boss. De transcendance.
Exactement
d'être
ça.
Ailleurs, dans une autre dimension. Moi, je trouve que c'est difficile de vivre.
Oui.
Mais c'est ça, on a tous besoin de s'échapper.
Oui. Scott Peck disait dans son livre « Le chemin des moins fréquentés oui. », il disait d'entrée de jeu, la vie est difficile. Bon, enfin, on peut-tu passer aux deuxième pages?
Mais ça, c'est un livre important. The Road Less Traveled. J'ai lu ça, j'avais comme 19 ans.
C'est un livre très important dans ma vie.
Super important.
Mais moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que tu sais, aujourd'hui, on dit les disques ne se vendent plus. Moi qui ai été longtemps dans le monde musical, pendant longtemps, et je me dis, attention, la musique se consomme plus, mais on la paye d'une différente façon, en s'abonnant à du Apple Music, à du Spotify, peu importe. On en consomme 10 fois plus qu'avant. Mais l'expérience humaine, regardez le nombre de billets de spectacle qui se vendent actuellement, ça a augmenté en flèche les dernières années. Les gens veulent vivre un buzz. Et c'est pour ça, quand j'ai vu les gens au Beach Club, moi, j'ai dit, c'est incroyable ce qu'il fait là. Et je me suis dit, il faut encourager les préparateurs de buzz.
On cherche des buzz, ça, c'est vrai.
Et toi,
J'ai trouvé des buzz où je m'attendais le moins à en trouver.
Vas-y donc, hein?
C'est-à-dire?
La première fois, j'ai traversé les îles de la Madeleine. C'est-à-dire que je voulais faire de la voile, puis je voulais me faire engager. J'avais pas de bateau. Fait que j'ai me passé une petite annonce, puis un monsieur de Québec partait de Québec, puis il allait aux îles de la Madeleine en voilier, tu sais. Fait que j'étais son équipier, j'ai embarqué avec lui. Et à un moment donné, quand tu pars de Lance à Beaufils, puis tu t'en vas vers les îles de la Madeleine, il y a un moment donné où tu vois tes barres de téléphone descendre. Touc, il en manque une.
Hop, il y en a plus deux.
Il en manque deux, trois, quatre, fini, il n'y a plus rien, c'est terminé, OK? Et là, je me rappelle,
tu vas
naviguer de nuit, parce que ça prend au moins à peu près 30 heures pour traverser, 25 à 30 heures. Oui, c'est le fleuve, c'est ouf, c'est quelque chose. Mais là, cette fois, c'était assez tranquille. Et je me suis couché sur le pont, et là, il y a tellement d'étoiles, là, Il y a moins de noir. Il y a presque plus de noir. Il y a des étoiles. C'est hallucinant. Et le mât bouge, parce que le bateau bouge. T'as l'impression que le ciel fait ça comme ça.
Wow! Ça, c'est un buzz, ça?
C'est un buzz?
C'est un buzz. Je vous dis, OK, je peux mourir là.
Ouais.
Mais c'est être humain, ça. Je pense que l'être humain a besoin de buzz. Puis comme tu dis, l'affaire du Beach Club, je suis allé.
Ah, t'es allé?
Le Beach Club, j'avais les mêmes préjugés que toi, une gang de douchebags et de Gerda.
Une
gang de douchebags et de Gerda. Et j'ai eu le même flash en disant, mais my God, c'est bien trippant.
Ah, écoute, c'est une affaire hallucinante. Et moi, je suis admiratif des gens qui se dépassent puis qui osent faire les choses. Mais il y a quelque chose, et moi-même, j'étais étonné à bouger anormalement. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et j'ai dit, sais-tu qu'est-ce que... Il y a quelqu'un à côté qui m'a dit, savez-vous ce qui vous arrive, M. Michaud? écoute, je te jure, à côté de moi. Hein? Parce que j'ai dit, mon Dieu, je suis un peu mal. Il dit, vous êtes vivant.
Hein? Et là, ça, c'est donc bien bizarre.
Et je trouvais, non, je pense que je n'étais peut-être plus totalement. Et je vais te dire, des fois, il nous arrive des périodes de nos vies où il y a quelque chose qui manque de buzz. Et là, j'avais un buzz. Et là, après ça, j'étais à la recherche, comme tu étais à la recherche d'une certaine drogue.
Tu veux revivre ça?
Moi, je veux vivre ça. C'est comme le succès. Quand on vit du succès, là, moi, les gens me parlent souvent du succès. Je me dis, tu vis ça. Même dans la popularité, quand tu vis un buzz, quand tu assistes à un spectacle, quand tu assistes dans les coulisses de Francis Cabrel, puis il y a 6 000 personnes qui lèvent, tu veux ce buzz-là.
Oui, mais ça, oui, c'est un petit buzz tranquille. Oui, c'est intense, mais c'est doux. C'est ça que je recherche aujourd'hui. Mais quelque chose de doux. Je veux plus
c'est intéressant, nuance.
Je veux plus me faire brasser. Je veux plus... j'ai loué l'été passé. En septembre passé, j'ai loué un voilier tout seul. Puis là, moi, je pars tout seul. Je suis parti avec tout seul. Puis je suis ancré dans une baie le premier matin. Je viens de me réveiller. Je me suis fait un café. J'ai eu un moment, ce qu'on appelle des moments de béatitude.
Ouais.
Où,
état de grâce.
Ben, j'en ai bavé. Mm. La bave a coulé de ma bouche.
Hein?
Oui, parce que je suis tellement, quoi, bien, tellement bien.
Comme un petit orgasme, un petit bonheur.
Il n'y a plus rien. Je ne suis pas... c'est dur à expliquer.
Tu n'as plus besoin de rien.
Oui.
Ouais, moi, ce que j'ai entendu parler, les gens qui prennent de l'héro, là, puis je connais une personne qui a pris de l'héro, puis qui dit, c'est la seule fois dans ma vie où j'ai senti que j'avais plus besoin de rien.
Ouais.
Tout était là.
Ouais.
Puis moi, c'est rare dans une vie que tu ressens ça, là. Que t'as plus besoin de rien d'autre que ça.
Ouais. Ben, quand tu me donnes des bisous, moi, c'est comme ça?
Non, c'est pas comme l'héroïne. Oh, pardonne-moi, c'est pas à moi que tu parlais, excuse-moi, Sophie.
Mais toi.
Moi, j'ai ça.
Toi, t'es ouais, capable d'arrêter la drogue dure. C'est-à-dire que.
Laquelle?
Ben, la célébrité.
La célébrité. C'est une drogue dure. Puis toi, des fois, tu le dis, là.
Oui,
j'ai pris mes distances.
Ah,
toi, t'es capable, là, d'un moment donné...
La télé, c'est une drogue dure.
Les gens qui ont goûté à ça, là, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir un nouveau contrat, être là.
Ah, pas moi.
Toi, t'es capable de dire... c'est une drogue dure.
Oui, mais la pire découverte que j'ai faite, Richard et Sophie, aussi, c'est de vous dire que la gloire... Et là, t'es bien placé. On est tous placés pour en parler. Ça ne règle aucun mot.
Non.
Et quand tu te rends compte de ça, c'est terrible comme constat. C'est terrible comme constat. Et c'est et dans mon livre que j'avais fait sur la gloire, j'avais interviewé Danette Blanger qui disait « c'est des calories vides ». Et c'est vrai que c'est ça. C'est un gros morceau de gâteau, mais il se passe rien avec. Et je trouve sincèrement...
C'est une belle image.
L'image est très forte, ça m'avait beaucoup frappé. Et moi, je trouve que quand j'étais tout petit et que je me projetais dans la télévision, je me disais « quelle vie formidable et vive ». Parce que de mon matin, j'idolâtrais un peu ça, genre que j'idéalisais ce monde-là. Mais quand t'es dedans, tu travailles, puis tu une shop, tu en vas travailler à la shop, me disait, t'as une rigueur à avoir comme le gars qui travaille à la shop. Puis il faut que tu fasses, faut que tu sois bon parce que tu vas être viré. Puis il y a une espèce de routine qui s'installe, puis une espèce de rigueur incommensurable pour être capable d'arriver au résultat. Ça répare rien. J'étais plus triste. Connu. Je me suis dit, ben voyons donc, on va régler tes bébêtes. Laisse pas la popularité régler ça. Donc moi, là, je reviens, là. Ça va t'annoncer dans 2 semaines. Je reviens, là. Là, ça a pris un mois avant de me convaincre.
Bonne nouvelle.
Hein?
Bonne nouvelle.
Ah, ben merci. Je suis très content. Parce que là, je suis décidé, puis je dis, OK, je vais revenir.
Radio-télé, juste vous dire, radio-télé.
Je reviens à la télé, puis je reviens avec un nouveau livre, pour ça, je reviens à la radio. Wow. Fait tout ça dans la même année. Okay.
Mais t'es capable de vivre ça.
Écoute, ça fait 2 ans et demi que je suis plus là. Mm-hmm. 2 ans, donc 2018-2019. Puis j'ai dit quoi, ça m'a pas manqué une seule seconde. Pas une seule seconde. Mais il faut comprendre, la célébrité est particulière au Québec. C'est-à-dire... Quand t'es à Montréal, les gens disent bonjour, t'arrêtes là. Dès que t'arrêtes à Saint-Hyacinthe, puis tu vas à Québec, c'est une autre réalité. Et je le dis avec beaucoup de... Si t'as un problème d'égo, là, je sais pas si t'es encore connu, va-t'en à Québec.
Parle-en à Martino.
Quand je vais à Québec, je reviens. Je vais à Québec deux
jours. Les gens
jours,
lui font des high-fives dans la rue.
Mon égo est gonflé. Mon
d'accord. Gros, deux jours. Québec. Et tu as travaillé là
deux jours.
Tu sais ce que je veux dire? Tu vas à Québec, c'est une autre réalité.
Même Québec, Trois-Rivières, n'importe où, à part Montréal.
Moi, j'arrête à Drummondville, mettre l'essence, tout au même endroit.
Acheter des roses.
Bon. Non, mais tout le temps, je sais quand tu vois une fois. J'arrête là, je sais. Là, je fais, ah ben là, ouais, là, OK, parfait. Donc, j'ai encore une petite cote. Mais si je m'attends, mon ego a besoin. Mais moi, j'ai tellement pas besoin de ça que je me dis ça va être correct. J'ai pas besoin de ça, moi. C'est presque anormal.
Des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
on parle de la célébrité puis que ça, ça répare rien.
Rien.
Vous parliez, à un moment donné, un de vous deux a parlé de le vide. Tu sais, on essaie de remplir des vides puis tout ça. Et moi, je pense que beaucoup de gens dans la vie essayent de réparer un vide à cause de l'enfance qu'ils ont eue. Dans quelle mesure la vie que vous avez aujourd'hui, c'est pour réparer les blessures que vous avez eues quand vous étiez
jeune? Vas-y, c'est demain.
Écoute, c'est quelque chose. Moi, c'était très violent. Charlemagne, c'était une petite ville, hein, la ville de Céline. Moi, j'y allais de là. Puis c'était très, très violent. Il y avait un mafieux qui habitait à Repentigny à l'époque. On n'a pas son nom, là.
Non, parce qu'on le poursuit bientôt.
Ben c'est ça. Fait que, puis il contrôlait l'est de Montréal, il contrôlait l'est, la banlieue est et tout, là. Fait que, moi, j'ai vu un petit garçon, un homme se faire casser les jambes devant ma maison.
Ah, pour de vrai, là? Oui. Pas au sens figuré, là.
Non, pas au sens figuré, là. Fait que c'était ça, Charlemagne. Tu sais, il y avait Saint-Paul-l'Ermite qui est devenu le gardeur après. Adolescent, je pouvais pas aller à Saint-Paul-l'Ermite tout seul, sinon je me faisais battre.
Mais dans ta famille, y avait-tu la violence de tes
c'était
parents?
C'était pas plus intéressant de rentrer chez nous. Mon père était alcoolique, hyper violent. Fait que ça c'est toutes des blessures qui. Écoute, c'est sûr que ma vie est dessinée pour aller consommer, moi, là. C'est sûr, certain.
Ben ouais.
Fait que.
Mais la célébrité, est-ce qu'elle t'a aidé à guérir quelque chose?
Ben non.
Dans
tout à fait.
Ben non. À 37 ans, la célébrité est arrivée. D'un coup, bang.
Moi aussi, à 37.
Tout est tombé d'un coup. Moi, je voulais.
Excuse-moi, à 37?
Oui.
Mais voyons donc, c'est devenu drôle.
Oui.
C'est vraiment spécial.
Avec Star Academy, c'est arrivé. Je suis devenu connu avec Star Academy. Ouais. J'avais 37 ans. Mais non, c'est devenu drôle.
Et puis moi, à 37 ans, je t'ai rencontré. Ah, ma vie a changé.
Mais la célébrité n'a rien guéri?
Ben non, pas du tout. Au contraire.
Ah, t'as-tu rendu plus vulnérable?
Mais c'est encore pire parce que là, les étrangers, les femmes, vous savez, bon, tu sais, c'est sûr qu'on a.
Pardon?
Les femmes.
Oui, j'ai bien compris, mais je suis
d'accord. Mais les femmes venaient te voir parce que tu étais célèbre.
Ben, il y a un certain pouvoir qui vient avec la célébrité, hein. Fait que.
C'est drôle, je voudrais mettre une caméra maintenant. Il y a des signes qui se font ici autour de la table.
Ben non, parce que Richard, il a toujours raconté qu'avant de faire les francs-tireurs, les femmes ne le regardaient pas. Puis le jour où il est passé à la télé, les filles voulaient coucher avec
après
lui.
Après ça, ils disent non, ce qui est important, c'est ce que tu as dans toi.
Mais comment ça, j'ai pas connu ça, moi?
You're sure, tu sais, parce que le jour où je suis
José Lito, il est jaloux.
Non, mais j'ai pas connu ça, moi.
Finalement, c'était facile. Fait qu'il a arrêté de me dire, le nom, l'important, c'est ta personnalité. Fuck off, là.
Non.
Mais moi, j'avais la même personnalité. J'avais pas connu ça, Richard Martineau, moi. Sais-tu qu'est-ce qu'on me disait, moi? Il disait toujours, moi, c'est les mères qui disaient. Moi, une femme qui m'a déjà dit. Merci d'exister.
Moi, je me suis dit,
on n'a jamais dit ça chez nous, on serait à la maison, c'est certainement jamais. Et je me disais, moi, c'était les mères, voulaient que je sois leur enfant. Mais jamais une fille qui est venue me croiser ou draguer parce que j'étais José Lito Michaud, jamais avoir su!
Mais toi, peut-être pas vu. Mais toi, ton enfance, plusieurs familles d'accueil.
Oui.
Est-ce que tu as passé ta vie d'adulte à régler tes problèmes d'enfance?
Mais moi, je dirais que là, c'est très bouddhiste ce que je veux dire, mais c'est vrai. Excuse-moi, Richard, je sais que t'es pas beaucoup ça. Mais sérieusement.
Non, mais si j'avais une religion à choisir, c'est le bouddhisme.
Parce que c'est une belle philosophie pour moi.
Oui, exactement.
Moi, je suis rendu.
Ben, en fait, c'est pas une religion, c'est une philosophie.
C'est une philosophie de vie. Moi, je te dirais, je suis rendu à embrasser mon enfance.
Mais tu fais la paix avec.
Ah non, mais c'est plus que ça. L'embrasser, tu fais la paix parce que tu l'embrasses. Pourquoi? Je me suis dit l'autre jour, j'avais eu des parents, moi, qui me stimulaient, qui me disaient que je suis le plus beau, le plus fin du monde. Quel genre d'individu je serais dans la société? Mm-hmm. Je me suis posé avec
vous. C'est une sacrée bonne question.
Voyons donc. Ouais. Je veux dire, c'est incroyable. J'étais à ma tante et j'étouffais énormément en me disant, c'est beaucoup trop petit. Mes amis me regardaient en disant, tu vas rester ici parce que c'est ça la vie. Puis moi, je disais, oh que non! Me dis, donc, imagine-toi, j'avais été gonflé à bloc par des parents stimulants. Puis, pas qu'ils n'étaient pas stimulants, mais c'était pas stimulé, encouragé. Jamais. Deuxièmement, comme intervieweur, c'est extraordinaire.
Donc, tu dis, j'aime la personne que je suis maintenant.
Pardon. Ouais. Je n'aime même pas.
Pas t'aimer là, avec un miroir dans ta face.
Ah non, mais même pas aimer, point.
Je suis bien, donc c'est grâce à mon enfance que je suis rendu
ça. Non, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut pas... C'est Flaubert qui dit on ne guérit pas en chérissant sa souffrance. À un moment donné, il faut en revenir de cette souffrance-là. Ouais. Je dis, c'est
j'adore
clair.
J'adore ça, il faut en revenir.
Il faut en revenir.
Il y a une métaphore intéressante qui
c'est bien dit, ça.
L'enfant a été blessé.
Oui.
OK? Puis, il ne faut pas laisser à l'enfant intérieur, c'est une métaphore, là, mais il ne faut pas le laisser diriger ta vie. Parce que lui, il est blessé, lui, il a peur de tout. Fait qu'il faut que l'adulte, le Sylvain adulte, dise à l'enfant, OK, c'est assez.
Assois-toi sur celle de côté, là.
Ça va faire.
Prends ma main, là, puis on s'en va par là.
T'as pas le choix.
Je vais te poser une question qui est vraiment bizarre. Je trouve ça vraiment étrange.
Ouais.
Je suis un grand fan des Sopranos. Ouais. La série, je l'ai vue 3 fois entièrement.
Oui, tu viens de la re-regarder.
Okay. Et là, je viens de la regarder encore une autre fois. Et là, Tony Soprano est un gars très viril, un boss de la mafia, tout ça.
Un mâle alpha.
Un mâle alpha. Et là, parce qu'il y a des crises de panique, il doit aller voir un psy.
Oui, je connais la série.
Puis là, il doit s'ouvrir, puis il doit parler. Puis là, et à un moment donné, il pogne les nerfs parce qu'il dit « Je suis en train de perdre de ma virilité. Mmh. » Les hommes, ça garde ses émotions. Puis les hommes, ça souffre en silence. Puis il dit « Là, je suis comme une femme. Je me répands devant toi. Puis je parle de mes problèmes. »
Et surtout, puis je il parle veut pas que ça gagne
le sache. Puis il dit « Je me sens, je perds de ma virilité. » Est-ce que ça te dit quelque chose, ça, toi?
Par rapport à moi?
Oui. Ben, je sais pas.
Je me suis... C'est ce qu'on a voulu nous élever de cette façon-là. On a voulu dire, quand tu ne fais pas ton affaire, donne un coup de poing sur la table ou lève le ton.
Ou parle pas. Hein, t'as pas besoin de parler tout le temps.
Le bon vieux, un gars, ça pleure pas. Puis tout non. Ça, là.
Oui, le strong silent type. Mais le fait que, bon, tu vas dans un groupe, puis tu partages, puis tu parles de tes problèmes, puis tes souffrances.
Oui, mais c'est majoritairement des hommes.
On associe ça beaucoup aux femmes qui verbalisent leurs problèmes, puis les gars, les vrais gars, ne verbalisent pas leurs problèmes.
Est-ce que dans le sous-entendu que toi, t'es contre ça?
Non, je suis pas contre ça, mais je peux comprendre qu'un gars dise, ça devrait pas agir de même, tu devrais pas, puis c'est bizarre parce que des fois, ça m'arrive de pleurer devant toi.
Mais souvent, la dernière année, t'as pleuré souvent, pour une sorte de raison qu'on rentrera pas là-dedans,
personnel, mais ça m'est arrivé, puis je me...
Est-ce que tu te sentais-tu faible à ce moment-là?
Ben, je me disais, tu devrais pas pleurer devant ta blonde.
Ben,
c'est drôle,
Je
le regrettais après, puis je me disais,
Moi, je lui disais, pleure, Richard, parce que c'est correct pleurer, là. Ça fait du bien.
Ouais. Ça fait du bien.
Ça fait du bien en tabarnouche de pleurer.
Ça fait du bien.
Moi, j'ai comme un trop-plein. C'est agaçant. Il y a tellement. Souvent, on a le goût de pleurer, d'avoir tenu. Comme année, l'eau est toute là, il faut que ça sorte.
Ouais.
Que des fois, c'est des niaiseries. C'est une série B, un film de poche à télé que je fais comme. Wedding Crasher, par exemple, qui est bon film.
Il y a 15 minutes avant la fin,
je fais comme, bon, qu'est-ce que c'est? Il va arriver à l'église. Puis là, je nomme ce qui va se passer parce que c'est toujours la recette américaine. Hein? On ne s'aime pas au début, puis à un moment donné, il va rentrer dans l'église, puis il va faire un speech. Il fait le speech, puis je broille.
T'as braillé, c'est trop mignon.
J'étais avec mon plus vieux à un moment donné, puis on regarde un film, tout ça. Puis il y a un bout de triste, tu sais, puis là... on regarde ailleurs, parce que ça monte, là, tu sais. Fait que, qu'est-ce que tu veux faire? J'en ai trop
pleuré. Mais moi, je trouve pleurer devant un enfant, c'est difficile. Moi, pleurer devant ma longue, j'ai pas de problème. Même dans mon deuil, je faisais le même rituel. J'allais coucher les enfants, il y avait 7, 8 ans ou 9 ans à l'époque. J'allais coucher les enfants. J'étais loin dans la maison, parce qu'il y a comme 2 maisons en une. Et je m'en allais sur la terrasse, je prenais mon cognac, double cognac, 3 glaçons, la même affaire, pendant 3 mois de temps. J'écoutais « Tu peux partir » en boucle. En boucle, pendant des heures. Et je pleurais. Et des fois, Véronique, elle venait me voir, puis elle me disait...
Mais tu faisais pas ça devant tes enfants?
Jamais.
Non, les enfants. Et Véronique te disait?
Elle me disait, « Tu veux que je t'en donne encore un peu de cognac? » Tout ce qu'elle disait, c'était
ça. Parfait, cette femme-là, devrait l'épouser, puis faire
de la moi, je l'aime d'amour. Je l'aime fort. Je l'aime comme la première journée, moi, Véronique. Je l'aime comme ma première journée. Nous, il y a eu des crises comme n'importe quel couple, puis c'est extraordinaire d'avoir des crises. Moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, quand j'entends quelqu'un dire 25 bonnes... Pas on rit, parce que, tu sais, les titres de magazines, c'est ça, 25 ans de bonheur. Mais qui peut dire qu'il y a eu 25 ans de bonheur?
La chanson de Jacques Brel, la chanson des vieux amants, bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle.
Ben oui.
1000 fois, je pris mon bagage, 1000 fois, tu pris ton envol.
Oui, mais qu'est-ce que tu penses?
C'est ça une relation.
Mais nous, on s'est toujours dit, à chaque année, on se rechoisit, nous. 31 décembre, on n'a pas cette journée-là parce qu'on se regarde et on dit, on est-tu là l'an prochain ensemble? On se rechoisit, nous autres. À chaque année, on fait ça. Puis là, on se dit, comment on va traverser la prochaine année, nous autres? Puis il y a eu des événements dans nos vies, là. intime, puis tout ça. Des fois, on fait, puis là, on se dit, tiens, on dit, ouf, on... Mais nous, on est certain que la seule chose qui peut nous séparer, mis à part la mort, c'est le fait qu'on ne s'aime plus.
Le fait que, justement, toi, tu es un enfant adopté et que tu as adopté deux enfants, ça fait en sorte que tu dois avoir un comportement différent avec tes enfants.
Ouais, c'est surtout le fait d'avoir été abandonné.
Voilà.
Plus que d'avoir été adopté.
Abandonné. Et à un moment donné, dans une entrevue, tu dis, quand tu quittes la maison, tu ne dis pas « je pars ». Tu sais, mettons, Richard, il part travailler, il va dire à notre
ces
fils,
mots-là, c'est vrai.
Je pars. Mais toi, tu dis pas ça, tu dis,
comment je dis ça?
Je vais revenir bientôt, ou quelque chose comme ça. Je peux pas dire à ton fils, je pars.
Ah, jamais ça. Quand je pars, j'ai encore, ça, c'est des syndromes de cet abandon-là. Ça, c'est des séquelles directes. Je pars, je m'en vais à Paris, je suis incapable, comme les gens disent, laisse la valise-là, je mettrai les vêtements tout à l'heure. Faut que je recrée tous mes rituels.
Sérieux?
Suspendu comme ça. Je pars, c'est épouvantable. Les départs, c'est épouvantable, épouvantable, épouvantable.
Mon père est mort aujourd'hui, ma mère est encore vivante.
Ta mère t'aime, c'est ton fan numéro un.
J'ai grandi dans l'amour, puis ça, quand tu as ça, là, c'est ta richesse. T'as pas besoin de... Quand tu grandis dans l'amour, tu es capable de tout.
C'est ce que disait Corneille. Il disait le moment, le « pour moi ». Il dit « pour moi ». Il dit « c'est un ami à moi ». Il dit « moi, ta souffrance est plus grande que la mienne ». Non.
Toute ta famille est décimée. Il a vu ses parents trucider devant lui.
Oui, mais lui, mais... Dalai Lama disait toujours, on ne compare pas les souffrances. Chacun vit son lot.
Mais toi, t'es abandonné.
Oui, mais lui, ce qu'il a dit, moi, j'ai été aimé.
Mais...
Jusqu'à l'âge de 16 ans, je sais que j'ai été aimé.
Mais t'as été abandonné. Mais
oui.
Écoute, moi, je m'excuse, je ne veux pas réaliser les...
C'est ça bien que tu es. Ça aide, je veux dire.
Mais tu as le même là, à la
oui,
place
que oui.
Savoir que j'ai été abandonné, là, ça me...
Mais ma réalité à moi, c'est que j'aurais quasiment apprécié l'être. Tu comprends?
C'est ça. Sérieux, Sylvain?
Ben, c'est-à-dire que moi, ma mère, je l'adore. Elle est toujours vivante, tout ça, tu sais. Mais moi, des fois, c'était violent à mon école. C'était, écoute... Et mon meilleur ami se faisait battre à tous les jours. Là, puis je pouvais rien faire parce que si je fais quelque chose, je vais me faire battre aussi. Puis c'était arrivé aussi. Fait que, mais je sais que je vais rentrer à la maison et ça va être la même chose. Fait que, écoute, t'as pas le goût. T'as pas le goût de rentrer. Là. T'as le goût de dire je pars.
Oui, je pars.
Je ne reviendrai plus.
Et je ne reviendrai plus.
C'est ça. Fait que, tu vois, c'est ta souffrance, mais la mienne, c'était de rentrer à la maison. Fait que, ils sont différents. C'est vrai qu'on peut pas les quantifier.
Tu sais, tu as fait une entrevue avec Céline, tu as côtoyé René Angélil, tu as côtoyé Céline.
J'ai même lu tout ce que tu as écrit sur elle, là. Récemment encore.
J'ai été assez raide avec Céline.
T'étais terrible.
Oui.
Peux-je revenir là-dessus?
Ben oui, vas-y.
Ben, bon, moi, je pense que toi, tu étais très, très, très dure, une des dernières que tu as faites, parce que tu reconnaissais plus ta Céline, entre guillemets.
Ouais.
OK? Moi, je suis d'accord qu'on ne la reconnaît plus. Mais il faut se poser la question, et si c'était la véritable Céline?
Oui.
D'abord, pendant 35 ans, cette fille-là était programmée, et c'est le terme exact, là, je ne sais pas un autre, il est programmé à la réussite.
Oui.
Cette personne-là...
Elle n'avait pas le droit à l'échec.
Moi, je trouve que Céline, sans René, c'est peut-être la véritable Céline. C'est-à-dire, elle décidait quand même de beaucoup plus de choses qu'on pense.
Est-ce que quoi? Il l'étouffait? Okay?
Moi, je ne dirais pas qu'il l'étouffait. C'est-à-dire, pour se rendre au sommet, comme elle devait être un peu sans faille. Pour être capable de traverser. Ouais. Et il la coupait de toute communication possible de l'extérieur. Donc, il l'isolait pour éviter toute contamination de l'extérieur.
Oui, pour la protéger
pour
aussi.
Pour la protéger d'elle.
Écoute, contrôlait.
Il y a mais moi, le contrôler, je trouve qu'il y a un côté très négatif de ça. Ben, toi, t'as campé son... Il veillait à ce qu'elle n'entende pas les choses, pour pas l'endommager, comme l'a dit ma mère. C'était très, très, très important pour lui. Est-ce qu'il y a eu raison de faire ça? Ben oui. Je veux dire que si tu faisais dire à tous les jours, t'es laide.
Elle n'aurait jamais été capable de
ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait aujourd'hui, René n'aurait pas accepté.
Un millième de ça.
Non, pas du tout.
Des danses lascives sur scène. De la mode complètement flyée.
Mais vous mettez éclate.
L'entrevue qu'elle a donnée dans l'auto avec Corbin, puis que là, elle commence à dire une c'est une bitch, puis une c'est du
sort. Est-ce que j'ai le droit de dire, je vous regarde, vous deux?
Oui.
Quel âge que tu as, José?
54 ans.
On l'a dit tout à l'heure, on a tous le même âge.
54.
54, non. Mais vous êtes bien sapé, vous n'êtes pas habillé en yo. T'sais, tu comprends? Vous êtes habillé en gars de 54 ans. J'ai le droit de dire que c'est pathétique de voir quelqu'un qui a 50 ans
51.
Essayer de faire la jeune.
Non,
mais ce que les gens disent à propos de Céline... C'est la différence entre, mettons, Céline puis nous quatre autour de la table, c'est qu'on n'a pas passé 35 ans à se faire dire comment s'habiller.
Bon, mais moi, j'irais plus loin que ça. Vous allez faire un film là, sur son enfance. Cette fille-là, elle a souffert de porter les vêtements des autres.
Tout à fait.
À partir... Mais c'est important.
Oui, elle l'a dit en entrevue à Radcam.
On est parti. On est bâti sur nos souffrances, les amis.
Ouais.
Je veux dire, on est...
C'est soulié.
C'est soulié, même chose.
C'est soulié, elle en a 10 000.
Ah oui, mais regarde bien ce qu'elle fait. Elle a les moyens de dire... Je peux changer de vêtements à tous les jours, 5 fois par jour si je veux.
Ouais.
Je me souviens d'une entrevue que j'avais réalisée avec elle à Las Vegas. Et je me souviens d'une phrase qui m'a beaucoup étonné. Elle m'avait dit, bon, tantôt on parlait de l'alcoolisme. Dans la famille de Céline, on a compris qu'il y avait des gens qui avaient un problème avec l'alcoolisme. Et moi, je lui demande, est-ce que tu as eu peur? Parce que moi, je me dis, comment ça, personne ne pose cette question-là? Que t'es bien simple. Mm. Quand tu vois Whitney Houston, puis elle me dit Amy Winehouse, mais on les nomme toutes. Sont toutes mortes dans un bain ou ailleurs, gelées ou peu importe. Toi, est-ce que tu as eu peur de perdre pied? Elle a reculé sur sa chaise et elle me dit, moi, dans ma famille, j'ai des gènes qui fait que... Donc, je me suis toujours tenu très éloigné de ça. Et René et moi, on partait toujours avant les parties. C'est important, cette nuance-là. Donc, cette fille-là...
Mais donc, René la protégeait, non?
René la protégeait et elle... Mais il y avait... Il y avait dans
il y avait un empire à construire René aussi. Là.
Toi, tu vois comme ça, toi?
Moi, c'est extraordinaire. Il y avait un empire à construire. Pas l'homme, pas juste l'homme, les deux. Ce couple-là a conquis la planète au complet. Une petite fille de Charlemagne.
Qui avait rien
une
pour 14e elle, au
de famille. C'est hallucinant ce qu'ils ont fait. Fait que c'est sûr qu'elle pète des coches, là, c'est un site. Je comprends, parce que... Pour arriver à faire ça, là, il fallait qu'il soit sans faille. Là. C'est un coup de dé extraordinaire qu'ils ont fait. Mais, là. C'est
bon,
ça.
Peux-tu en parler du fait que tu joues René Angélil dans un film avec Valérie Lemercier? Oui.
Moi, je
t'as trouvé que j'étais trop dur.
Je te trouve trop dur. Et, non, mais c'est vrai.
Mais c'est vrai.
Trop dur parce que moi, je pense que, d'abord, et je dis pas que je trouve pas ça un peu étrange parfois. Oui, bien sûr, je suis un peu étonné des fois. Mais il y a des fois, je vois des choses puis je fais. Wow, elle peut faire ça maintenant.
Ouais.
Elle peut faire ça. Et elle, pour elle, est devenue une icône de la mode à travers le monde. Ouais. Donc, elle n'était peut-être pas si folle que ça. Aujourd'hui, on parle que de ça à travers le monde actuel. Peut-être plus encore que sa musique.
Oui, mais c'est parce que le milieu de la mode, excuse-moi, c'est du grand n'importe quoi aussi.
Mais en même temps...
Tu mets une plume dans le cul, puis là, ils disent « Oh mon Dieu, c'est formidable, mais elle révolutionne la mode. »
Mais
je m'excuse, on a le droit de dire que c'est ridicule.
Oui, mais Sophie... Qu'est-ce qu'elle veut faire de plus que remplir 1500, 1300 fois là-bas à Las Vegas? C'est quoi son plus grand défi maintenant? Aller faire le centre Vidéotron, aller faire le centre Bell? Voyons donc!
C'est la routine,
voyons
ça.
Donc! Ouais. Voyons donc! Il n'y a rien d'intéressant. Je veux dire, elle peut bien le faire, elle va le faire avec plaisir. Mais qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, c'est de dire, elle a un kick comme un enfant, un kick!
Ouais.
Tantôt, on parlait de buzz. Ça l'a fait buzzer en tabarnouche, je suis un costume, elle dit, vas-tu provoquer? C'est ça qu'elle aime. Je pense qu'il y a quelque chose qu'elle aime en disant, je vais m'exprimer de cette manière-là.
C'est éclat.
Assez éclat, voilà. Comme jamais. Moi, je dis juste que des fois, ça peut être étonnant.
Puis, moi, je l'ai vu à Vegas à l'époque où elle était la vieille Céline, avant. Okay. Très, tu sais, très, très glamour, très classe, très, avec une belle robe longue, puis le rideau blanc.
Ouais, ouais.
Moi, je suis old school.
Ben, la diva,
j'aimais ça.
Je trouvais que c'était l'époque de Sinatra.
C'était classe.
Julie Garland, Barbara Streisand.
Elle le fait divinement bien.
Bon, elle le fait extraordinaire. Mais là, comme tu dis, OK, oh fuck. Donc, là, elle fait ça, ça veut dire que pendant ce temps-là, elle s'en foutait totalement de son public.
Pas ça que
je... Elle faisait la musique de ma tante, puis ça la faisait chier.
Non, moi, je pense pas. Moi, je pense pas. C'est là que j'ai mis des nuances. Je pense pas qu'il l'empêchait d'être ce qu'elle est véritablement. C'est qu'il y avait aussi cette partie-là en elle qu'elle avait peut-être pas l'occasion de pouvoir l'exprimer.
Okay. Mais t'es été gérant, toi. Ouais. T'as quelque chose à construire avec ton artiste à un moment donné, tu sais. Mais on a un talent extraordinaire. Avec un autre talent de gérant extraordinaire, ça a fait boum.
Bon, pourquoi tu n'as pas le droit de dire que tu joues René? Est-ce que là, parce qu'au mois de mars,
c'est une question légale.
Tu ne pouvais pas le dire. Non, mais je veux juste savoir, est-ce qu'aujourd'hui, tu as le droit d'en parler ou tu es toujours sous obligation légale de garder la confidentialité?
Il faut juste que tu pousses un peu, je vais m'échapper.
Okay.
Ah, okay. Mais
j'ai une grande gueule, moi. C'est pas, j'ai pas,
mais ça sort quand, ce film-là?
C'est parce qu'il y a comme C'est Caramel Film qui est là-dedans avec Rectangle Productions qui est français.
Okay. Mais Caramel, donc, c'est Karine Vanasse est là-dedans ou elle
non,
est plus
mais
là-dedans?
Non, mais elle est
Caramel, c'est une production. Là, ouais. C'est, okay. Ben, puis bon, les autres m'ont dit « Arrête de faire ça, là, parle pas de ça ». Il y a un, bon, tu peux pas en parler.
Il y a un embargo.
Ouais. Mais là, moi, je vois Michel Drucker, qui a participé au film aussi,
ouais,
qui, en France, qui en parle à tour de bras.
Mais là,
Valérie Lemercier.
Et il joue son propre rôle, Michel Drucker.
C'est assez
OK, toi, t'es au courant de ça?
Il l'a dit. Il était tout fier de dire à l'entrevue l'autre jour, j'ai joué mon propre rôle dans la vie de Céline. Fait que là, rendu là, il peut tout dire.
Ils m'enfermeront, c'est tout.
Il peut tout dire.
Mais vous... Bon, c'est certain que tu peux pas dire le scénario puis tout ça avant que le film sorte, c'est sûr et certain, mais non, Valérie Lemercier, moi
je l'adore.
Moi, j'aime beaucoup, puis j'ai vu tous ses films comme réalisatrice, mais ça va être une parodie de vous.
Est-ce que c'est une parodie?
Non, c'est
comme
ça.
Comme actrice?
Non, je suis assez content, parce que moi, quand je l'ai lu, j'ai fait, voyons, c'est pas ça. T'sais. Moi, je cherchais la parodie, parce qu'on est habitué au Québec de la dénigrer. Puis de
mais qui joue Céline?
C'est elle.
Valérie?
C'est Valérie Lemercier.
Valérie Lemercier elle-même?
Okay. Oui, la dernière fois, j'étais avant le tournage, j'étais allé à Paris pour des essais pour les costumes et tout. Et là, je dis, Valérie, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que ton film, c'est bien écrit, tout est, mais je vois pas.
Le ton?
Elle dit, je veux parler de l'histoire d'amour. Hmm. Parce que au Québec...
Sans ironie...
On dénigre beaucoup au Québec, là, mais en dehors, là, en France, là, c'est une méga star, là. C'est une déesse, là. C'est vraiment, là. Alors, il s'en moque beaucoup moins que qu'ici, tu sais. Elle a dit, moi, là, pour moi, c'est deux monstres sacrés, là. Et je veux parler de cette histoire-là. Et j'ai fait, oh boy, OK, on embarque dans d'autres choses. Oui, c'est une comédie, ça va être très drôle. Elle joue à tous les âges, hein, de la naissance...
C'est pour ça que...
De la naissance jusqu'à...
C'est bizarre,
jusqu'à 50 ans.
À 50 cocanées, Valérie?
Oui, mais c'est pas grave, ça, c'est suspension of disbelief au cinéma.
Ben, des fois, je dois jouer avec elle.
Le film sur Bob Dylan, là, c'est une femme qui joue.
Il y a un blue screen, là, puis l'image va être changée derrière. Puis je joue avec elle. Et je la regarde à l'auteur des seins. Parce qu'elle a 12 ans.
Ah, elle va être plus petite.
Elle a 12 ans. Oh, fait qu'après, il la réduise. Fait qu'on est un peu séparés pour pas qu'il y ait d'interférences dans l'image, tout ça. Fait que, fait qu'elle se joue vraiment à tous les âges.
Mais Sylvain, qu'est-ce qu'on retient, sans dévoiler le synopsis, mais qu'est-ce qu'on retient après avoir lu la fin du synopsis? Qu'est-ce qu'on retient?
C'est deux amoureux là, qui ont conquis une planète entière. Mm. C'est ça l'histoire du film.
Parce qu'ils étaient amoureux.
Oui, c'est drôle. Il y a là-dedans. Il y a plein de choses de très drôles là-dedans. Elle est hilarante. C'est vraiment... Mais il y a des moments très tendres, très doux, où ces deux-là, ils s'aiment. Là, c'est...
Je parle dans exactement 5 minutes.
Oui, 5 minutes.
Oui. Alors, veux-tu un petit peu de salade?
Non, c'est beau, moi, c'est parfait.
J'ai un texte que je dois à 10 heures.
Donc. Ah, c'est vrai?
Ah oui, ils t'ont dit que finalement, t'écrivais?
Oui, ils m'ont dit, finalement.
C'est vrai qu'ils voudraient ça.
Ah, tiens, après, j'aurais pas dû leur demander.
Mais non, je comprends ça.
Non, mais c'est vrai, ça reste 5 minutes.
On parle de la parodie, justement. Là. Moi, quand j'ai commencé à tourner, j'ai commencé comme ça, tu comprends?
Oui.
Et Valérie a dit non, stop, coupé. Elle dit non, fais pas ça. Je dis, ben, comment ça? Puis j'avais toujours fait ça avec elle. Elle dit non, elle dit, si tu fais une imitation, je dois en faire une moi aussi. Je dois... Puis les personnages, elle s'appelle Aline Dieu. Elle s'appelle pas.
Céline Dion.
Moi, c'est Guy-Claude Camard qui s'appelle. Donc, il n'y a pas. C'est des personnages, tout ça, qui ressemblent énormément, évidemment, à.
Mais oui, basé sur,
tu sais. Ce qui fait que j'ai sa lenteur, peut-être.
Mais ça, j'aime ça, parce que Monsieur Angélil, moi, je suis pas... Tu sais, René, mais Monsieur Angélil...
Ah, moi, je l'aimais.
C'était ça.
Moi aussi. Ah, oui.
Depuis le parrain.
Mais c'est pour ça qu'il avait joué.
Le parrain 72.
C'est pour ça qu'il avait joué dans
Mertin. Dans Mertin, je l'avais interviewé pour ça.
Il n'a pas besoin de forcer. C'est ça. Il est puissant.
Quelqu'un qui n'a pas besoin de crier, c'est quelqu'un qui a du fucking parrain.
Je capotais.
Excuse-moi, regarde cette photo-là, c'est Sylvain.
Mais non, c'est super.
Bonjour René.
Oui, il va partir.
Bonjour René, regarde.
C'est incroyable.
Mais oui, le veston, ça
c'est très agréable,
c'est super. As-tu aimé ça?
Beaucoup aimé ça. J'ai aimé. Mais moi, j'étais très content de retrouver Sylvain, que je connais peu, mais on a fait des entrevues ensemble. Oui.
C'était comme un train, mais stable.
Quelle belle Beach Club ensemble. On est là, tout le monde ensemble.
Merci.
Mais Marcel, toi, tu restes? T'as dit que tu restais?
Je peux rester, moi, ça va.
Ah, mais non, Richard,
c'est
écrit.
Non,
mais c'est vrai, Richard, faut qu'il écrive. Thank you.
Vous avez écouté le balado « Devine qui vient souper » avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.